C'est le journal de Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour Amélie, bonjour à tous. Le procès France Télécom, des peines maximales requises contre l'entreprise et ses anciens dirigeants jugés pour harcèlement moral. Le cru 2019 du bac restera dans les annales au stress de l'examen. S'est ajouté l'éprouvant suspense du bras de fer qui oppose les profs grévistes à leur ministre Jean-Michel Blanquer. Nous l'écouterons, il était hier soir l'invité du journal de TF1. Au Royaume-Uni, on voit des bulletins de vote aux quelques 160 000 adhérents du Parti conservateur. Appelé à choisir entre Boris Johnson et Jeremy Hunt, le successeur de Theresa May à la tête du parti et du gouvernement. Des matchs de tennis truqués, le parquet national financier ouvre une enquête en France. Coup d'envoi ce samedi du Tour de France depuis Bruxelles.
Et avec notre invité à 7h50, justement, on va reparler de ces matchs truqués dans le tennis. On parlera également de la folie des jeux en ligne. On sera avec Philippe Ménard, le patron du service Courses et Jeux à la police judiciaire. Et puis à 8h20, ne manquez pas le grand entretien avec Masha Makeyev, la metteuse en scène, est à Avignon.
France Inter. Le procès des suicides à France Télécom, pour la première fois pour une entreprise de cette taille, de la prison ferme a été requise pour harcèlement moral et complicité contre 7 anciens dirigeants. Un an de prison assorti de 15 000 euros d'amende, requis à l'encontre de l'ancien PDG Didier Lombard, 77 ans, ainsi que l'ex numéro 2 et l'ex DRH. C'est la peine maximale pour harcèlement moral. Un long réquisitoire de 5 heures pour bien faire prendre conscience des enjeux qui se jouent lors de ce procès. Mathilde Lemaire.
Quel dommage, monsieur Lombard, qu'un esprit comme le vôtre ait été mis au service d'un seul impératif au point de vous rendre aveugle et sourd. Voilà comment la première procureure entame frontale les 6 heures de réquisitoire. Aveugle et sourd, comprenez à la souffrance occasionnée par le plan censé provoquer 22 000 départs en 3 ans. Vous aviez conscience, dit-elle, des conséquences de vos méthodes. Il y avait des vies en jeu. Les deux procureurs fustigent le jargon des circulaires de la direction à l'époque. Derrière ces mots, la réalité, c'était qu'il fallait dégoûter les salariés, explique-t-elle, les mettre dans un tel inconfort qu'ils n'avaient d'autre choix que de fuir. Cette pression, c'était les missions temporaires sans lien avec les compétences, les mobilités obligatoires. Certains cadres sont venus raconter à la barre les simulations de rendez-vous pour apprendre à inciter les salariés à partir. Au prévenu, l'une des procureurs lance. Vous n'avez cessé de répondre ici à l'audience. Je ne sais pas, je ne répondrai pas à cette question. Peut-être, elle monte d'un ton. À quoi ça sert d'être un chef si vous n'assumez rien? Brouhaha dans la salle, certains rangs se retiennent d'applaudir. Jamais au pénal en France, il n'y a eu de condamnation pour harcèlement moral collectivement organisé. Le ministère public souhaite que France Télécom fasse jurisprudence.
Mathilde Lemaire est reprise de l'audience lundi prochain. Les plaidoiries des prévenus vont durer jusqu'à jeudi et puis la décision sera ensuite mise en délibéré. Le baccalauréat 2019, une partie des candidats, entre 35 et 40 000, ont encore une ou plusieurs notes provisoires en raison de la rétention de copies par des correcteurs grévistes. Ces candidats devront encore attendre avant leur relevé définitif. Et après cette grève des transmissions des notes, certains professeurs indiquent qu'ils favoriseront les candidats convoqués lundi à l'oral de rattrapage, qu'ils donneront aux élèves le nombre de points qui leur manquent. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, est accusé par ses détracteurs d'avoir, je cite, saboté le baccalauréat, que les notes et les résultats sont faux. Des accusations que Jean-Michel Blanquer rejette en bloc. C'était hier soir sur le plateau de TF1. Pour lui, il n'y a pas eu de notes inventées.
Normalement non, bien sûr, puisque les notes qui sont données sont celles du contrôle continu. S'il y a une contestation, ça peut tout à fait se vérifier au début de la semaine prochaine, justement, quand il y aura les bulletins définitifs. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait qu'il est possible de corriger s'il y a eu telle ou telle erreur. Je ne suis pas derrière chaque jury. D'ailleurs, les jurys sont souverains, hein, mais simplement, la consigne, c'est celle que j'ai dite très clairement l'autre jour, c'est-à-dire donner la note de contrôle continu. S'il y a une erreur, si la note obtenue à l'examen est supérieure, les élèves auront cette note.
Ça veut dire qu'aucun candidat n'a été reçu aujourd'hui et pourrait être finalement recalé si sa note d'examen finalement était très inférieure à sa moyenne.
Il faut quand même mettre les choses en perspective. Hein. Nous parlons de 750 000 candidats au baccalauréat. C'est environ 50 000 qui sont concernés par ce problème. Je suis d'accord pour dire évidemment que ça n'est pas une situation idéale, mais nous l'avons géré au mieux et je n'ai eu qu'une pensée, c'est pour les élèves. Si je n'avais pas fait ce que j'ai fait, aujourd'hui, les élèves n'auraient pas eu leurs résultats, il y aurait eu un véritable chaos provoqué par une toute petite minorité.
Le ministre de l'Éducation nationale hier soir sur TF1, par ailleurs à propos des soupçons de fraude sur les épreuves de mathématiques, 2 candidats et un couple de trentenaires ont été mis en examen pour fraude aux examens et recel d'abus de confiance. L'homme est, selon le journal Le Parisien, un surveillant de l'établissement Osaratora de Créteil dans le Val-de-Marne, un établissement privé sous contrat. Il est soupçonné avec sa compagne d'avoir eu accès au sujet relayés et de les avoir revendus aux deux candidats qui eux-mêmes ensuite les ont relayés sur des messageries privées. Autre soupçon de triche dans le tennis cette fois-ci. Une enquête est ouverte en France par le parquet national financier pour corruption sportive. Soupçon de matchs truqués dans des petits tournois professionnels dans au moins 7 pays dont la France. La Belgique a déjà inculpé 7 personnes. Elles appartiendraient à un groupe de l'Est très structuré, spécialisé dans les matchs de tennis. Des petits matchs sans grands enjeux, mais où il est plus facile justement de corrompre et de tricher. Guillaume Batin.
Dans les pédossiers constitués par la justice belge depuis 3 ans, la bande organisée est en relation avec une centaine de joueurs et d'entraîneurs évoluant dans les tournois Future et Challenger, les divisions inférieures du tennis professionnel. Les joueurs sont incités à perdre un jeu, un set ou un match sur un score très précis, ce qui a pour effet de faire grimper les cotes et de permettre aux parieurs complices d'empocher de grosses sommes d'argent, même sur de petites mises. Les gains mensuels de ce réseau basé en Belgique sont estimés à 100 000 euros par mois. En début d'année, 4 joueurs français avaient été placés en garde à vue, interrogés par les enquêteurs du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire. La justice française ouvre à son tour une enquête préliminaire pour corruption sportive, association de malfaiteurs et de blanchiment de corruption en bande organisée. Mais au-delà de la France et de la Belgique, l'enquête touche une demi-douzaine de pays, dont la Bulgarie, la Slovaquie, l'Allemagne, les Pays-Bas et les États-Unis.
Et les matchs truqués dans le tennis, on en reparle avec notre invité Philippe Ménard, le patron du service courses et jeux à la police judiciaire. Il sera avec nous à 7h50. Pour l'heure, il est 7h06, c'est la suite du journal de Laurence Thomas. À l'étranger, la course à Downing Street continue au Royaume-Uni.
Jeremy Hunt et Boris Johnson parcourent le pays pour tenter de convaincre les indécis. Et depuis cette semaine, les membres du Parti conservateur commencent à recevoir leur bulletin de vote pour choisir qui des deux candidats sera le prochain Premier ministre. Elodie Goulesque s'est rendue à Darlington, au nord-est de l'Angleterre.
À Darlington, le rendez-vous du jour pour les membres du Parti conservateur, c'est le théâtre Hippodrome, situé entre la gare et le centre-ville. Ce matin-là, Jeremy Hunt et Boris Johnson s'adressent à leurs électeurs. Pour la plupart, le choix est déjà fait et le grand favori, c'est...
Boris.
Les 160 000 membres du Parti conservateur commencent à recevoir leur bulletin de vote afin de déterminer qui sera le prochain chef du parti, mais aussi et surtout le prochain Premier ministre.
Oui, j'ai reçu les bulletins hier. Je les ai bien mis à l'abri pour ne pas les perdre.
Peter, la cinquantaine, a déjà fait son choix, qu'il exprime dans un français presque parfait.
Je pense que Boris Johnson va être le prochain Premier ministre du Royaume-Uni et puis c'est ce qu'il nous faut. Quelqu'un qui va nous mener contre l'Europe. Contre les Français même.
Un peu plus loin, il y a Mike. Lui penche plutôt du côté de Jeremy Hunt.
Je pense voter pour Jeremy. Je vis et travaille à la campagne et je pense qu'il comprend mieux les difficultés que Boris.
Les membres du Parti conservateur ont jusqu'à après la mi-juillet pour faire leur choix et envoyer leur bulletin de vote. Le nom du successeur de Theresa May devrait être annoncé autour du 23 juillet. Darlington, Elodie Goulesque, France Inter.
Aux États-Unis, un puissant tremblement de terre d'une magnitude de 7,1 a ébranlé la nuit dernière le sud de la Californie, au lendemain du plus violent séisme enregistré dans le secteur depuis 1994. Le séisme a frappé la petite ville de Ridgecrest, dans le désert californien, près de la vallée de la mort, à 200 km au nord de Los Angeles. Des bâtiments ont été endommagés, il y a quelques blessés légers.
Le sport maintenant, Laurence, avec le départ de la première étape du Tour de France.
194 km 500 autour de Bruxelles. Le coup d'envoi sera donné à 12h25. 176 coureurs au départ pour 22 équipes au pays du cyclisme pour les 50 ans de la première victoire d'Eddy Merckx sur la Grande Boucle et pour le centenaire de la création du maillot jaune. La fête a déjà commencé lors de la présentation des coureurs pour Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. Des dizaines de milliers de personnes sont attendus.
Entendre Eddy sur la grande place, scandé par des milliers de personnes, c'était très fort. Et ça augure évidemment, oui bien sûr, d'un week-end de grand départ absolument phénoménal. On est à Bruxelles, dans la capitale du pays qui est le cœur du cyclisme. Et on l'a ressenti. C'est la première fois depuis que je suis dans l'organisation, depuis 15 ans, que j'ai le sentiment que le Tour a démarré jeudi. Avec la présentation des coureurs. J'ai vraiment eu ce sentiment-là, et c'est ce que m'a dit Cyril Saugrain, l'ancien coureur, qui est aujourd'hui consultant à la télévision belge. Il m'a dit, mais j'ai l'impression que ça vient de commencer aujourd'hui. Je lui ai dit, c'est exactement ce que je ressens.
Christian Prudhomme avec Fabrice Rigobert. Vous serez nombreux sur les routes ce samedi. La journée est classée orange au niveau national et rouge en Ile-de-France.
Merci beaucoup, Laurence Thomas. On passe aux couleurs du ciel cette fois.
La météo
avec les volets roulants Velux. La protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
C'est avec Jean-Michel Golinski. Jean-Michel, vous nous annoncez des orages sur une bande centrale du pays, une large bande centrale du pays, c'est ça ?
Oui, tout à fait, Amélie. Entre le sud de la Bretagne, le Grand Est, les Alpes et le nord de l'Aquitaine, des orages plus forts en cours d'après-midi, notamment sur le relief et à proximité. Alors plus au nord, c'est-à-dire de la Manche au Perche, au bassin parisien et à la Champagne, possibilité d'ondées passagères, mais l'ambiance sera généralement sèche et ensoleillée, malgré un ciel un peu plus nébuleux cet après-midi. Enfin, sur les régions les plus méridional du Pays Basque à la Méditerranée, du soleil avec tout de même quelques heures de grisaille en tout début de matinée sur l'Hérault et les Pyrénées Atlantiques. Les températures en baisse dans le sud-ouest, parfois jusqu'à 7 degrés, vont conserver le même niveau qu'hier sur les autres régions.